Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
Bonsoir, bienvenue dans Récréation sonore sur Radio Campus Paris, Muriel KS au micro. Pour la troisième et dernière fois cette saison, nous poursuivons la découverte des créations des étudiants du CréaDoc avec Le chien et la valise, une pièce d'Olive Péchereau. J'ai retenu cette pièce, une sorte de comédie sonore, parce que l'humour n'est pas si fréquent dans la création sonore et il nous est pourtant indispensable par les temps qui courent.
Allô.
There is no such thing as silence.
Le silence n'existe pas.
Something is always happening that makes a sound.
Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Olive s'est intéressée à la circulation d'une histoire, s'inscrivant dans la lignée des exercices de style de Raymond Queneau, que je recommande vivement à celles qui ne l'auraient pas lu. Mais laissons Olive se présenter, et puis après l'écoute de « Le chien et la valise », je discuterai avec elle de son processus de création. Alors, Olive, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditrices pour te connaître un petit peu?
Oui, donc moi je m'appelle Olive et je suis étudiante au CréaDoc. Et donc j'ai réalisé cette pièce qui s'appelle Le chien et la valise, qui est une pièce que vous allez du coup écouter et qui. Mais je vous laisse vraiment vous faire surprendre ou pas par la pièce. Je vous laisse l'écouter sans vraiment vous dire grand-chose parce que je pense que c'est le meilleur moyen de le découvrir peut-être.
Ok, donc on va écouter Le chien et la valise, et puis on se retrouve après pour échanger un peu sur cette pièce.
On vous a raconté cette histoire ou pas?
De quoi?
De la copine de Bertille.
La copine de Bertille à Paris qui gardait des chiens.
Non.
En été, faisait du pet sitting. Tu vois ce que c'est?
Ouais.
Du coup, tu es dans une maison, un appart, et tu gardes le chien de quelqu'un pendant qu'il part en vacances.
Ils partent en vacances, donc elle leur dit, ne vous inquiétez pas, je vais promener votre chien, nourrir et tout, ça va aller.
Cette babysitter lui donne à manger. Les propriétaires, le premier jour, lui disent « Attention, il va bien, peut-être bientôt mourir. »
Par contre, on dit le chien, il est un peu vieux. Franchement, il y a un risque qu'il meure, tu vois, pendant les vacances. C'est pas impossible.
Et c'était un gros chien, quand même. C'était pas un tout petit chien. Et donc, elle y va tous les jours, tout se passe bien. Et un jour, elle rentre.
Ce qui devait arriver arriva.
Le chien meurt.
Oh non.
Le temps des vacances.
Le temps des vacances. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire du chien? Qu'est-ce que je vais faire du chien?
Elle avait un cadavre de chien mort dans l'appartement, quoi. Et elle était en mode, déjà, c'est extrêmement glauque. Et surtout, elle était en mode, qu'est-ce que je fais du cadavre? Enfin, c'était horrible comme question, mais il fallait se la poser, tu vois.
Attends, je vais juste amener les trucs sur la table. Ouais. Ah oui.
Et là, du coup, elle appelle les proprios. Ils disent,
les propriétaires étaient dévastés, mais ils étaient en voyage loin et du coup, ils n'avaient pas du tout de possibilité de rentrer. Et du coup, les propriétaires lui ont demandé d'amener le chien dans une espèce de crématorium pour chien.
Ben, faut l'emmener chez le vétérinaire, puis elle, pas de bagnole. Tu vois, à Paris, personne n'a des bagnoles.
Galère. Pas de thunes, pas possible de prendre des Uber.
Du coup, elle se dit ok. Sauf qu'en fait, c'était un gros chien, et du coup, elle était en mode mais comment est-ce que je vais le transporter dans Paris? Parce que c'était pas à côté de chez elle, fallait qu'elle prenne le métro et tout, mais elle était en mode je vais pas transporter un chien mort, genre à pleine main. Enfin, les gens, ils vont être en mode c'est horrible et tout, ça va les choquer.
Elle trouve une valise à roulettes.
Elle met le chien dans la valise, zip, et elle referme la valise.
Et en fait, la valise était extrêmement lourde.
Ouais, c'est 40 kilos le bazar. Ouais, ça pèse 600 points, hein, un labrador.
Et du coup, donc elle prend la grosse valise à roulettes, elle se.
Bah, la voilà partie dans Paris. Donc elle descend l'ascenseur.
Et voilà, dans le métro avec le chien, puis elle en chie. Bah,
donc vous voyez bien Paris, pas d'ascenseur dans la plupart des métros. Donc
elle prend l'escalier. Clac, 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 clac.
Elle se galère et tout, puis à un moment, il y a un mec qui lui dit bah, vas-y, je vais t'aider.
La portée, c'est lourd, elle est en mode ah bah, avec plaisir et tout. Et du coup, il lui dit mais c'est quoi qu'il y a dedans et tout, c'est hyper lourd. Et du coup, elle s'est dit mais je pouvais pas lui dire un cadavre de chien. Du coup, elle lui a dit bah.
Comme elle était un peu artiste et tout, c'est une copine de Bertie, tu vois, elle a que des copines artistes. Elle dit bah.
Vu qu'elle est DJ, elle dit c'est du matos de son de DJ quoi.
Non mais t'inquiète, du matériel photo.
Et du coup, le mec, il était en mode ah ok.
Ah, il monte l'escalier et là, le mec,
il part avec la valise.
Sérieux? Il a volé la valise. C'est pas mal. Hein.
C'est pas mal. Super drôle. Hein.
Ah ouais, j'aime bien. Là, c'est arrivé hier récemment.
Bah, ce qui est encore plus drôle, c'est que nous, on nous l'a raconté. Et Julie, on lui a raconté aussi. Et du coup, moi, je ne pas lui faire du jean, je vais garder le terrain. Et en fait,
attenzione.
Pickpocket, kudasai.
Agli scippatori. Fermez bien vos sacs ou abordez train.
Me voici dans le métro. Et je suis avec tout mon matériel de son là, dans mon sac. Il faut que j'aille où ? Varennes, Permetti, la gare, Montparnasse. Parce que forcément, je vais à Paris. Pour parler de cette histoire et pour enregistrer le métro, mais l'ironie du sort, c'est que mon sac est extrêmement lourd avec tout mon matériel qui coûte cher. Je le dis pas trop fort parce que si on me le fait voler.
En fait, j'arrive dans un petit cercle de gens qui parlent depuis longtemps et du coup, quelqu'un qui a dit « Vous avez pas des anecdotes ?» Bah si, j'en ai plein, tu vois. Du coup, je raconte l'histoire du chien. Et d'un moment, il y a une meuf qui me dit « Mais attends, elle vient d'où cette histoire et tout ? Il y a un contrôleur dans le train qui me l'a déjà raconté. » Complètement dingue.
Le contrôleur raconte ça à Juliette.
Juliette me le raconte alors que c'est une histoire que moi je venais de raconter.
Je vais te dire quelque chose, j'ai déjà entendu cette histoire.
Mais non.
J'ai déjà entendu une histoire comme ça. Mais c'est pas un contrôleur, tu vois, alors c'est juste. C'est bizarre, tu vois, alors c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Moi c'est dans le métro parisien.
C'est n'importe quoi.
Bah non, mais je te jure, c'est une vraie histoire, c'est vraiment arrivé, c'est la personne de machin bidule à qui c'est arrivé.
Bah n'empêche que moi, c'est la première fois que je l'entends.
C'est vrai ?
Ouais. Donc je vais la raconter et on va bien voir chez les jardiniers.
Alors.
Non, parce qu'on a déjà trouvé des chiens dans les jardins. Des gens qui veulent enterrer leurs chiens dans les jardins, des chats,
ah ouais,
des chiens.
Ça, ouais,
et dans les jardins, on a déjà trouvé des boîtes, des sacs avec des animaux, mais pas la valise.
Qui ronfle.
Mais.
Allô, allô.
Allô, mamie, ça va?
Salut, ma petite Olive, oui, ben ça va, et toi?
Ça va super. Je me demandais si c'était possible de passer quelques jours avec vous.
Écoute, pourquoi pas? Julie sera contente, les petits seront ravis.
Super. Mon grand projet...
Écoute,
okay, après. Non, mais c'est qu'en fait, j'avais envie de faire un truc sur l'histoire du chien dans sa valise.
Oh! Oh là là! Ah, Julie, encore!
Génial! On l'a raconté je ne sais combien de fois cette histoire.
Vous aussi, vous l'avez raconté?
Ah ouais, on l'a rencontré Bertie.
Ah ouais?
Il me l'a raconté.
Ah bah oui!
Parce que je me dis que elle. Enfin, elle, elle m'avait dit que c'était une copine à elle, quoi. Enfin, franchement. Moi, je la crois, quoi. Allô, Bertie, c'est Julie. Bah, moi, je suis avec Olive, ma nièce. Et elle fait une enquête, figure-toi, sur l'histoire que tu m'avais racontée, tu sais, du chien, de ta copine à Paris. Et du coup,
une amie de Noël à Paris.
Une amie de Noël, ok.
J'ai le nom de cette copine, par contre.
Ah.
Si vous arrivez à l'avoir au téléphone pour ça, ça peut être vraiment marrant, parce que c'est une sacrée femme avec un sale caractère.
Oui, allô?
Oui, allô, c'est Olive. Par rapport au chien.
J'ai la query d'une copine Alice.
Allô Noémie?
Ouais.
C'est Alice qui m'a donné ton numéro. Toi, t'as fait un film sur le chien dans la valise.
Alors non, moi j'étais ingé son sur le film du coup.
Ok, trop bien.
Ouais.
Merci beaucoup. Chaque endroit où je vais, quand je parle de cette histoire, il se passe un truc. Maintenant, j'ai décidé de jamais laisser le micro éteint. Je comprends pas trop comment elle se déplace, cette histoire. C'était une amie de ma tante. Dans la bouche de mes amis, maintenant, c'est ma tante à qui c'est arrivé. Et je me dis potentiellement, il y a peut-être des gens qui disent que c'est directement arrivé à moi, pour la faire plus courte. Et donc là, je suis au jardin des Tuileries. Attends, je vais changer de micro, là, ce serait mieux. Donc là, j'attends au jardin des Tuileries parce qu'il y a Julia, qui est donc la personne qui a réalisé le film sur le chien dans la valise, qui doit venir. Je lui ai ramené une bouteille d'eau et un petit peu d'écho. m'envoyer un message. J'arrive, j'ai un collant bleu.
Ah, ça doit être toi.
Excellent.
Parfait.
Ça va? Oui, et toi? Enchantée.
Mais oui, moi aussi.
Je pense.
Qu'est-ce que...
Parce que toi, du coup, tu connais Noémie, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ok.
C'est facile. C'est une pote de pote.
Ok. Qui a c'est... parlé de... C'est ça. Mais non, mais c'est trop drôle. Comme ça... Enfin, je sais pas, ça crée, ça lit des trucs, les histoires. Je trouve ça fou. Cette histoire, elle est folle. Il y a un truc, ça déclenche. C'est... Je sais pas, c'est comme si on... Je sais pas, un peu comme si on disait qu'on avait vu le Père Noël à un enfant. Il y a un truc dans les yeux qui pétille. Et... Enfin, je sais pas, mais je racontais cette histoire en tant qu'histoire. Et derrière, justement, j'attendais ce moment où les gens allaient mais frémir mais non, mais attends, mais après, tu vois, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est qui? C'est qui cette personne? Mais et le mec? Qu'est-ce qu'il a fait de la valise? Enfin, tu vois. Et justement, la première fois que je fais le pitch, ils me disent, mais d'où tu l'as pour celle-là? Parce que j'ai pas le temps de dire... Je voulais faire un peu cet effet surprise et dire, bah justement, ça s'inscrit dans un truc un peu plus global où j'ai envie de questionner ces légendes urbaines, de faire un peu un travail dessus. C'est marrant, parce que je pense qu'on ne relève pas forcément tous les mêmes points. Et que la manière de raconter les histoires, des fois, ça en dit aussi long sur nous, sur ce qu'on a retenu, ce qu'on... Est-ce qu'on s'adapte à la personne qui est en face? Est-ce qu'on va essayer de faire rire? Est-ce qu'au contraire, on va adopter un ton hyper dramatique, solennel? C'est marrant. Moi, c'est un peu sur ça aussi que j'essaie de travailler, sur comment on raconte des histoires. Parce qu'en fait, toutes les histoires, au final, ont déjà été racontées, quand on y pense. Comme toutes les histoires ont plus ou moins déjà toutes été vécues.
Donc voilà, là je suis dans le métro. Il y a une femme et une autre femme qui se regardaient, qui se parlaient pas, et à un moment elle disait des couleurs. Bleu, rouge. Et après elle disait raté. On va jamais y arriver. Rouge, bleu, raté. Après invalide, elle disait blanc. Parce que c'est chic, la station. Et j'ai regardé invalide et c'était blanc. La station. Sauf qu'elles ont dit raté. Donc on a continué à être dans la même rame. Et à la fin, j'ai compris qu'elle parlait des sièges.
faisait un jeu, en fait. Elle disait, elle imaginait la couleur des sièges. Je me suis dit, on se rend pas compte de ce qu'il y a dans la tête des gens. Et après, je me suis dit, on se rend pas compte de ce qu'il y a dans leur sac. Il n'y a que les voleurs qui peuvent savoir ce qu'il y a dans les sacs.
Qui est ce mec? Tu vois? Qui s'est retrouvé avec le chien. Moi, je trouve que de ce côté-là aussi, c'est incroyable comme histoire.
Mais c'est vrai qu'on ne l'entend jamais de ce côté-là.
Ouais. Alors que, putain, le mec, il s'est dit, ok, putain, je suis trop bien, je suis trop refait, vas-y, fais voir, qu'est-ce qu'il y a comme câble, machin. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?
En même temps, elle est courte, du coup, l'histoire. Un jour, je volais une valise et j'ai ouvert et il y avait un chien de...
Bah après, ça dépend ce qu'il raconte autour. Ça peut être, putain, je galérais à Paris, j'ai perdu mon taf, et puis un jour, je veux me lancer dans la musique. Enfin, tu vois, on peut aussi construire des histoires autour de voler la valise. C'est dingue. Tu sais, je pense que je peux fumer une cigarette.
Ah, mais vas-y, vas-y. Et toi, t'as des animaux?
Si moi, j'ai des animaux?
Ouais.
Non, pas directement, mes parents ont un chat, mais moi j'en ai pas.
Ok.
Toi t'as des animaux ?
Bah oui, mes parents ont un chat, mais...
Ok. Ah oui, d'accord.
Oui, on y va, on y va.
Merci à vous.
Tu veux que je te prenne un truc ? Je te prends 5 même.
Vas-y, vas-y.
La valise.
On porte la valise.
Bon. Quand j'étais dans le métro l'autre jour, enfin, que j'avais peur de me faire voler ma valise. Je pensais que j'allais rien me faire voler. Je me disais, ça serait pas possible que quelqu'un me vole quelque chose, quoi. Bah, j'ai réussi à me faire voler l'histoire. J'ai réussi à me faire voler le fait d'en faire un film. Et c'est pas pareil maintenant que je sais qu'il y a déjà un film sur cette histoire. C'est pas pareil. Et c'est comme la déception d'apprendre que cette histoire est fausse, quoi. Un peu. Bref. Donc maintenant, je me retrouve... sans histoire, au milieu de l'escalier du métro. Et cette nuit, j'ai pas un rêve où j'étais aussi comme ça au milieu des escaliers du métro. Et je vois par terre un jeu de cartes. Donc je vais aller le ramasser. Et quand je l'ouvre, je me rends compte que les cartes, c'est que des jokers. Tous les mêmes jokers. Donc j'essaie d'inventer un jeu de cartes, enfin une des règles. Et au loin, j'entends la voix du métro.
L'histoire du chien dans la valise est une légende urbaine bien connue qui circule depuis des décennies sous différentes variantes.
Et je me rends compte que la voix du métro, en fait, c'est ChatGPT.
Cette légende touche les peurs communes liées à la sécurité dans les grandes villes.
C'était juste en mode Poto, c'est ton chien, genre. Ouais, t'imagines, on vole Pipa, là. Ah, je te jure, moi, on vole Pipa, je le rattrape, je cours après lui, genre. Mais je peux tabasser quelqu'un. Hein.
Origine possible. Anxiété urbaine.
Non, mais c'est parce que quelqu'un a une sonnerie avec son portable et c'est un abonné.
Elles n'appartiennent à personne, donc à tout le monde. Tu peux pas l'arrêter, elle reviendra. Tu veux que je le réinterprète avec un certain style? Par exemple, plus dramatique, plus académique, ou avec un ton de conteur?
Mais il finit par me parler du jeu de cartes aussi. Parce qu'il me dit... Pioche, mais choisis quand même. Voilà, pioche, mais choisis quand même. N'importe quoi. Et là, je me réveille. Mais du coup, ça m'a donné envie de savoir ce que ChatGPT aurait pu dire de ma légende, quoi. Est-ce qu'elle la connaît déjà ou pas du tout? Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe, quoi, dans sa tête, à elle? Est-ce que tu connais l'histoire du chien dans la valise?
L'histoire du chien dans la valise, résumé de l'histoire. Une personne trouve un petit chien blessé dans la rue. Pris de compassion, il décide de le ramener chez lui. Pour cela, il cache l'animal dans sa valise, il emmène le chien chez le vétérinaire pour un check-up. Et c'est là que l'histoire prend une tournure effrayante. Le vétérinaire examine l'animal et s'exclame avec horreur. Mais ce n'est pas un chien. Selon la version, l'animal est en réalité un rat géant, souvent décrit comme venant d'Amérique latine ou d'Asie, une créature dangereuse ou porteuse de maladies.
Ah non. Ah non, il connaît pas. Ok. Bon, café. Merci.
Tout ce que je t'aime. Ah, mais c'est en français. Enfin, c'est une histoire française.
Ah,
c'est
pas
une
bonne
histoire
question.
Qui vient d'un autre pays. Genre, là, ce serait sans fin. C'est-à-dire que là, tu vas devoir voyager jusqu'à l'autre bout du monde. Tu vas te retrouver, genre, je sais pas, en Inde. Mais oui, je connais la version.
Ce serait génial.
Alors, non, je crois que c'est vraiment, international.
C'est vrai?
Oui, parce que je marquais Doug et le suitcase.
Mais
et
non.
Marqué story. La légende urbaine du chien. C'est en anglais. Il y a une version à Londres aussi, où c'est dans un taxi. L'histoire du chien mort est une légende urbaine qui a au moins 33 ans. C'est trop bizarre.
Mais c'est génial, mais 33 ans. Purée.
C'est beaucoup, c'est énorme.
Tu t'es donné combien de temps pour faire ce début?
À quelle vitesse vous pensez qu'on pourrait répondre à une légende urbaine comme ça?
Je pense que c'est assez rapide. Hein.
On essaie.
Moi, je suis chaud. Hein. Mais il faudrait trouver un truc...
C'est trop compliqué de créer une histoire.
Ah, je sais ce que je veux.
Écoute.
Passe-moi les trucs.
Attends, parce que c'est une histoire drôle. Écoute cette histoire drôle. Ce que je vais te raconter, Bertie, c'est une histoire qui est arrivée à une amie entre de nous. Pardon. Attends, je suis hyper confuse, désolée. Une pote du lycée, etc. Et en gros, elle nous a raconté qu'elle était en école de cinéma et tout. Et donc, elle décide de
faire un documentaire sonore sur cette histoire.
Du coup, elle raconte cette anecdote à une pote pendant un festival. Je crois qu'elle m'avait dit un nom, mais j'ai oublié comment elle s'appelait. Et cette fameuse personne dont j'ai oublié le nom dit, il faut que je te dise un truc. L'histoire du chien dans la valise est une anecdote qu'on nous raconte avec mes cousines depuis que je suis petite. Genre dans la famille, c'était une anecdote...
Du coup, elle se dit ok.
Et qu'elle appelle
la tante de cette meuf.
Donc, elle prend un rendez-vous. Puis, elle s'en va en ville. Elle va.
Et en gros, sa tante, elle habitait à Paris. Et du coup, notre pote, elle voulait trop partir à Paris. Elle était un peu en mode Paris, la ville de l'art, etc. J'adore Paris. Mm-hmm. J'adore Paris.
Ok, donc il donne l'adresse. Nanana, et donc, là, elle se retrouve. Bah, qu'est-ce que je fais avec ce.
Matos de son.
Comment est-ce que je vais le transporter dans Paris?
Ouais, c'est 40 kilos le bazar. Ouais, ça pèse 600 ouais, points.
Du matos de son.
Du coup, elle se dit, bah, il faut que je trouve un sac pour le mettre.
Et donc, elle trouve une valise à roulettes, une grosse valise à roulettes.
Laisse-la finir.
Et donc...
Puis metta le chien
matériel de son
dans la valise. Elle referma la valise, clic, zip.
Et la voilà partie dans Paris.
Donc elle descend l'ascenseur.
Elle arrive dans le métro. Putain, les couloirs. Une galère, hyper lourde la valise.
Donc vous voyez bien Paris, pas d'ascenseur dans la plupart des métros. Donc
elle prend l'escalier. Clac, clac.
Elle se galère et tout, puis à un moment, il y a un mec qui lui dit, bah, vas-y, je vais t'aider.
Oui, toi, la portée, c'est lourd, elle est en mode, ah bah, avec plaisir et tout.
Le mec dit, dis donc, elle est lourde, votre valise, qu'est-ce qu'il y a dans votre valise? Donc elle dit, bah, je vais quand même pas lui dire que je...
C'est genre du matériel de son et tout, parce que je suis en école de cinéma et tout. Du coup, elle lui a dit, bah, un cadavre de chien.
Ah, c'est vrai? En vrai, ça s'est passé?
Le chien et la valise, une histoire de... un documentaire sonore d'Olive Péchereau, réalisé dans le cadre du M1 Créadoc à Angoulême, avec le soutien du Polymage Magélis, ainsi que l'Université de Poitiers. Mixage Mewen de McVille, et un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à ce documentaire, ainsi qu'à toute la classe du Créadoc 2025.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
La première question que j'avais envie de te poser, Olive, c'est comment t'es venue cette idée de nous raconter l'histoire du chien et la valise à ton tour?
C'est déjà venu du fait que moi, je l'ai beaucoup raconté. Je l'avais énormément raconté jusqu'à ce que je découvre que c'était donc une fausse histoire. Et j'ai eu envie de vraiment aller très très profond dans cette histoire pour essayer de comprendre pourquoi elle marchait autant. C'était ça le début de ma recherche. Ça me paraissait complètement fou que, en la racontant, il y ait autant de gens qui s'y projettent complètement. Et je ne comprenais pas pendant très longtemps comment ça se faisait. Et j'ai eu vraiment envie de la distordre dans tous les sens pour un peu la décortiquer. C'était un peu ça l'idée de départ. Et d'essayer de la traîner en longueur ou de la ralentir. Enfin, j'avais envie de faire plein de choses à partir de cette histoire-là. Et au final, ce n'est pas trop ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé d'autres choses qui m'ont beaucoup surprise personnellement. Et je suis allée plus dans cette idée de surprise, mais au départ, c'était vraiment une envie de décortiquer une sorte d'histoire que moi, j'avais beaucoup racontée et que j'avais aussi pris du plaisir à essayer de ralentir à des moments, à essayer de l'étoffer et de voir comment elle pouvait évoluer aussi de parole en parole et comment chacun pouvait se l'approprier. C'était un peu sur ça aussi, sur l'appropriation d'un certain récit par tout le monde, comme si tout le monde pouvait un peu la vivre, cette histoire, de manière personnelle et en faire presque que sa propre, son histoire à soi, alors qu'elle n'appartient pas vraiment à soi. Et à partir de là, je me suis dit que j'avais envie de faire une réflexion un petit peu sur comment est-ce qu'on s'approprie un peu les histoires de chacun pour en faire notre histoire, quoi.
Donc c'était surtout sur la partie effectivement diffusion et appropriation. Alors tu dis que tu as eu des surprises. Qu'est-ce qui t'a surpris toi au cours du déroulement du travail?
En vrai, plein de choses, parce qu'à chaque fois que j'entendais que quelqu'un la connaissait aussi, c'était une surprise. Et c'est arrivé plein de fois. Au final, en fait, j'avais l'impression que tout tournait à un moment. J'ai eu l'impression que tout tournait autour de cette histoire. C'était presque bizarre. Parce que dès que je rencontrais des gens, les gens, ou soit me la racontaient, ou je parlais de mon travail, ils la connaissaient déjà. Il y avait déjà eu quelqu'un qui. Enfin, c'était un peu fou. Et il y a eu ce truc de quelqu'un qui a déjà fait un film sur cette histoire. Et que ce soit de d'ampleur nationale. En fait, j'avais l'impression que tout était surprise en surprise. Je naviguais entre plein de surprises qui se mettaient les unes sur les autres et je savais plus où regarder, quoi, à un moment. La surprise, enfin, était totale, quoi, personnellement.
Ouais.
Je savais pas du tout en commençant qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà fait un film dessus, par exemple.
Ouais, bien sûr, ouais. Et finalement, tu as fait le choix du rire, donc du rire vraiment partagé. C'est pas si fréquent dans le podcast, hein. Donc, comment cette idée t'est venue? Comment le rire et l'humour s'est intégré dans évidemment, non seulement dans l'histoire, mais même dans sa diffusion, sa dispersion, etc. Comment c'est venu le rire?
Bah, je crois que ça, on m'a déjà posé cette question-là et je savais pas vraiment exactement quoi y répondre, mais je crois parce que moi, ça me faisait beaucoup rire, en fait. Parce que ça me paraissait évident de beaucoup. Enfin, je sais pas, c'était comme si c'était logique dans ma tête. Et les gens ont beaucoup dit que c'était parce que, enfin, quand je demandais aux gens de ma classe, par exemple, ce qu'ils en pensaient de cette question-là, ils m'ont tous dit. Bah, c'est juste parce que c'est toi, quoi. Mais du coup, parce que je pense que ça me faisait beaucoup rire et donc j'avais envie de partager ce rire-là. Et ça me paraissait hyper important, surtout dans cette idée-là, que on rigole pas tant que ça dans les documentaires. Parce que je crois, enfin, parce que du coup, vu que c'est une école de documentaire, on parle beaucoup de documentaires et ça pouvait être assez peut-être un peu bah, beaucoup de sujets enfin. Je dirais pas que c'est pas important de rire, mais ah, je me perds dans mes mots. Mais le rire me paraissait être comme quelque chose qu'on n'utilisait pas, c'est vrai.
Oui, c'est vrai que je ne suis pas sûre, moi, d'avoir déjà programmé des choses vraiment drôles sur Récréation Sonore, parce qu'il n'y a pas une offre formidable de choses qui relèvent de la comédie, disons, sonore.
Que même moi, j'aimerais bien écouter des choses drôles. Enfin, je trouve que le rire est vraiment à réinjecter un petit peu dans le documentaire pour aussi faire passer d'autres messages. Et je trouve ça chouette à penser, en tout cas.
L'autre question que je me pose très souvent quand j'écoute comme ça une pièce de création, c'est comment c'était scripté au départ, quel était finalement le scénario écrit et comment éventuellement les choses ont pu évoluer lors du tournage et du montage.
Donc, en fait, au départ, je voulais un peu disperser le récit tout au long de la pièce, disperser l'histoire du chien qu'on comprenne petit à petit. Et au final, en la racontant et en la re-racontant, j'ai eu le sentiment que les surprises venaient tellement, moi, enfin, me frapper, pas me frapper, mais me faire rire en tout cas, que j'ai voulu condenser le récit au début et aller de surprise en surprise. Je me suis dit que c'était plus juste d'aller vraiment dans un truc où on suit moi, quoi, qui suis dans cette situation d'intervieweuse et qui vais avec ma valise partout, quoi. Et qu'on vous embarque dans ma valise.
Et du coup, donc ça, j'imagine que ce que tu viens de nous dire, c'est notamment au tournage. Et après, au montage, comment tu as travaillé pour garder ce côté, justement, comment dire, parcours, quoi, parcours d'une étape à l'autre et finalement nous raconter une histoire qui connaît un vrai développement.
Bah, c'était en testant beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'était vraiment. J'ai essayé plein, plein de choses qui ne marchaient pas du tout. J'avais toujours cette idée de déplacement. Et en testant, je me rendais compte qu'en inventant vraiment une histoire complètement fausse, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'avais envie de rester dans un truc un peu qui était vraiment ce qui était arrivé à cette histoire. Et du coup, qui m'était arrivé. Et oui, j'allais de. C'est vraiment en testant et en faisant écouter aux gens et avec leur retour, je retentais quelque chose d'autre et encore quelque chose d'autre et encore quelque chose d'autre. Et il y a plein plein de scénarios qui se sont. Qui ont fini à la poubelle. Mais j'ai tenté plutôt des trucs, quoi.
Et justement, dans ta pièce, il y a aussi, je trouve c'est assez notable, c'est pas, on n'entend pas ça partout, il y a une grande diversité des prises de son de la voix et on entend du coup vraiment les voix comme une matière à travailler. Ça, c'était un angle que tu voulais mettre en œuvre dès le départ dans ton esprit.
Oui, ça c'était hyper important parce qu'il y avait toute une dimension aussi très comme si chaque surtout dans le début et la fin, enfin les deux blocs qui sont au début et la fin, j'avais très envie de faire entendre les différents espaces où se racontent ces histoires-là. Il y avait cette idée de reprendre chaque espace de l'espace de la légende, enfin de l'histoire en tout cas, ou du lieu de récit, pour le réorganiser et créer un peu un récit commun à partir de tous ces petits espaces qui sont des espaces de différentes tailles. Il y en avait dans une ferme, il y avait dans un tout petit appartement, enfin, au téléphone. Pour moi, c'était que des espaces de récit où c'est comme si on me racontait. Enfin, c'est comme si j'avais. Oui, c'est bah, c'est totalement ça, où j'ai enregistré les espaces où les gens racontent ces histoires-là. Et pour moi, c'était très important d'essayer de les mélanger pour que ça crée une sorte d'espace commun qui soit un lieu de récit avec des qualités différentes, avec des manières de parler différentes, des espaces différents, mais au final, ça reste l'espace du récit. Et j'ai trouvé ça très hyper intéressant à travailler. Même avec toute la partie plus qui est au centre du documentaire, où là, j'essayais de fluctuer entre différents espaces aussi, différentes manières de parler, et un peu même dimension sociologique, où peut-être les gens racontent, voilà, dans tous les sens.
Et donc, tu nous disais que tu avais travaillé bon, quasiment un an finalement sur ce documentaire. Quand tu l'écoutes là, quelques mois après, est-ce que toi, tu as un regard qui a évolué dessus, enfin un regard ou une écoute qui a évolué dessus? Comment tu la vois ou qu'est-ce que ça t'évoque de plus en fait cette pièce depuis qu'elle est écoutée par d'autres?
Bah, je crois qu'il y a vraiment un truc de l'histoire que je ne me rendais pas compte de aussi de l'histoire de manière un peu plus globale, de l'histoire au sens de la discipline d'histoire qui me frappe beaucoup plus maintenant, j'ai un peu l'impression, où c'est comme si les comme si on manipulait, enfin, je ne m'étais pas trop rendu compte alors que j'ai fait des études d'histoire, mais j'avais l'impression que ça transparaissait pas tant que ça. Et la modification de l'histoire, comment elle se métamorphose au cours du temps, je crois que c'est ça qui ressort le plus pour moi.
Son évolution par rapport à la diffusion, en fait, c'est ça?
Oui, et même de maintenant, ce que les gens comprennent, ce que les gens en retiennent, c'est comme si ça l'ancrait et en même temps, ça la. Non, mais je ne sais pas.
En tout cas, effectivement, on ne l'oublie pas. C'est dans ce sens-là que ça l'ancre, effectivement, dans la mémoire de chacun.
Oui, parce qu'en fait, j'avais aussi très peur de la poser, cette histoire-là. Et là, le fait que de la voir encore vivante et que les gens continuent à la raconter, même maintenant, en écoutant cette pièce, j'ai l'impression que ça va continuer. Même moi, j'ai l'impression que je vais reprendre cette pièce et qu'elle va continuer à grossir peut-être ou à devenir autre chose. Enfin, j'ai l'impression que c'est un objet un peu à saisir encore et que elle pourra peut-être continuer à un peu vivre. Ça me fait peut-être, enfin, ça me fait rire quoi, encore.
Ça me fait une transition parfaite, puisque on serait content de savoir quels sont tes projets aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as des projets en cours sur le plan plus sonore?
Ah, sur le plan sonore, c'est une bonne question. J'en ai plusieurs, oui. Mais là, je suis en train surtout de travailler du coup le lien du son avec l'image et ça me passionne beaucoup. Mais juste au plan sonore, là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué récemment, un truc de recherche que j'ai lu qui était sur les femmes qui logent des gens sur Airbnb, enfin qui font des habitats partagés. Et j'ai eu l'impression de voir une pièce sonore documentaire immédiatement. Et donc, je crois que j'ai envie de continuer des trucs sonores. Je ne sais pas exactement sous quelle forme. Celle-là, je pense que je vais la faire, mais dans peut-être quelques temps, le temps de sortir du Créadoc. Mais j'ai plus envie de travailler sur les espaces maintenant. Je crois que ça m'a donné envie de cette année de son, de travailler plus sur les espaces et en continuant à rire un petit peu. Mais peut-être je n'en dis pas trop parce qu'au final, je ne sais pas trop encore, enfin, aujourd'hui, où je vais avec cette idée. En fait, je ne sais pas du tout.
Bah, merci beaucoup, Olive, de cet échange. Et puis, peut-être à bientôt sur Récréation Sonore.
Merci à toi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est fini pour ce soir. Vous pourrez réécouter cette émission mardi midi et à partir de mercredi en podcast sur la page de l'émission sur le site radiocampusparis.org ou sur toutes vos plateformes de podcast. La semaine prochaine, vous retrouverez François Bordonneau. Bonne semaine.